Nous allons, pour une petite heure, discuter donc avec messieurs Laurent Clotzer. Donc je vais les présenter de gauche de droite à gauche. Qu'est-ce que je dis ? Non, de gauche à droite. Enfin, bon, de Juan Miguel Aguilera à toi. Donc, monsieur Laurent Clotzer, monsieur Jean-Philippe Depote et monsieur Juan Miguel Aguilera,
oui.
Avec son traducteur. Et donc, nous avons discuté pendant... Oui. Donc, nous avons discuté pendant une heure de la possibilité d'un monde sans frontières. Donc, c'est un thème qui aborde que de nombreuses œuvres de science-fiction abordent, puisque c'est le terme aussi historique de l'utopie, de la société dénuée de frontières. Et en même temps, paradoxalement, c'est aussi ce que la modernité effrénée a créé. C'est le néolibéralisme, c'est le marché global, la mondialisation. Essayer de se détacher de toute frontière. Et donc on va explorer ce sujet pendant une petite heure. Est-ce que comment cela se est-ce que cet espoir ou cette possibilité d'un monde sans frontières est traduit dans vos œuvres, monsieur Clotzer?
Évidemment, puisque la société dont je suis le représentant et pour laquelle j'ai écrit un livre est une société multinationale, donc qui est une marque mondiale. Donc effectivement, pour elle, même s'il existe si elle prend tout à fait en compte les particularismes locaux et les identités culturelles locales, c'est une société qui a pour valeur et pour image des valeurs humaines universelles, c'est-à-dire l'intelligence, le goût pour l'efficacité, la communication, l'éthique. Donc c'est un sujet que je défends, en fait.
Mais de façon plus précise, comment cela se traduit-il dans l'œuvre ?
Ben, ça se traduit en essayant d'illustrer dans le livre, en fait, les valeurs de cette société. C'est-à-dire, en fait, qui sont pour moi des valeurs qui relèvent plus qui sont des valeurs métaphysiques, des valeurs qui relèvent plus du mysticisme, enfin de la croyance en quelque chose qui dépasse l'homme, que de choses plus locales, en fait. Pour moi, dans le monde entier, il y a une aspiration vers le beau, vers le clair, vers toutes les cultures ont ça en elles. Et cette société, c'est une société qui, justement, répond à cette demande.
Est-ce que l'un de vous veut réagir ?
Ouf. Non, moi, je dirais plutôt, effectivement, dans les livres que j'écris, c'est pas le monde sans frontières n'est pas au centre. Les seules frontières que je fais tomber, à la limite, c'est les frontières de la mort, puisque mes personnages... font des allers-retours entre le Paris des vivants et le Paris des morts. Par contre, c'est plus dans mon expérience personnelle que j'ai peut-être un peu plus touché du doigt le monde sans frontières. Et même de par ma personnalité, je pense que j'ai plutôt une vision un peu pratique des choses et je laisse le rêve au roman. Et donc j'ai vécu 4 ans au Japon. Et, ce qui est amusant, c'est que c'est au moment où j'habitais... au Japon, à Tokyo, que j'ai écrit mon premier roman, Les démons de Paris. Et du coup, je pense que Peut-être qu'effectivement, si on veut un peu rêver, le monde sans frontières, il existe au niveau de l'imagination. Et moi, je vois, à titre personnel, comme le fait d'être à Tokyo entouré de Japonais et passant mes journées à apprendre le japonais, à essayer de comprendre le plus possible, de profiter de ma chance et de comprendre le plus possible la société japonaise. Mais je me suis fait peut-être justement contaminé par une vision de la France et de Paris des Japonais. Et c'est ça qui se retrouve dans mon roman. C'est un Paris qui n'est pas... Donc je décris un Paris historique, le Paris de la Belle Époque, mais qui est un Paris fantasmé, un Paris presque plus japonais que français. C'est le Paris de Moulin Rouge, de Baz Luhrmann. Et je pense que... Donc un Paris de décor de théâtre, un Paris très romantique. Et je pense que c'était déjà une première expérience intéressante d'au moins une frontière qui avait lâché. C'était une frontière culturelle et une frontière au niveau de l'imaginaire, l'imaginaire de deux pays tellement différentes qui se mélangent.
Bien. En général, mis novelas hay de dos tipos, o son situadas en nuestra historia real o en una historia imaginada por mí en el futuro.
En général, mes romans sont de deux types différents. Certains sont se renvoient à l'histoire réelle et d'autres à une histoire imaginaire.
En la historia real sabemos cómo han sido las fronteras en nuestro mundo, pero en mi saga de A Casa Puspa, que está representada con una novela publicada en francés que se llama Monts et des Monts.
Bon, dans l'histoire réelle, nous connaissons le rôle des frontières dans cette histoire réelle, dans notre histoire. Par contre, dans la saga que...
A Casa Puspa.
A Casa Puspa.
Está representada por una novela que se llama Monde de Monde en francés.
Qui est représentée ici par un roman dont le titre est
Monde
et démons.
Y lo que plantea es un universo donde las estrellas están muy juntas, de forma que es posible viajar entre las estrellas muy fácilmente.
Met en scène un monde où on peut passer très facilement d'une étoile à l'autre, où les univers sont très proches les uns des autres.
Y hay un imperio que domina todas estas estrellas y que de repente este imperio decae, desaparece, abandona una zona que queda un poco a su libertad, a su suerte.
Il existe un empire qui domine tout cet univers, toutes ces étoiles différentes, et brusquement il disparaît, il tombe en décadence, il disparaît, laissant à leur sort les différents mondes qu'il compose.
Aparentemente la desaparición de las fronteras sería una cosa buena, pero en la práctica, por lo que vemos en la historia, en la Edad Media, lo que provoca son pequeños grupos que intentan aprovecharse de la situación mediante el pirateo.
Bueno, generalmente, on peut considérer que la disparición des frontières pourrait être quelque chose de bénéfique, mais en fait, on se rend compte, y compris dans l'histoire, que la disparition des frontières provoque l'émergence de différents petits groupes.
En mi serie hay un personaje que está inspirado en Carlomagno que intenta reunir de nuevo, crear otra frontera donde existan unas leyes.
Donc, dans ma série, il y a un personnage qui est inspiré du personnage de Charlemagne qui essaye de réunir justement ces mondes pour recréer une loi.
Lo que quiero decir con todo esto es que la desaparición de las fronteras nos puede parecer una utopía, y es una utopía muy bonita en la que yo creo.
Donc, pero la disparición des frontières peut nous paraître comme une utopie très, très belle, très jolie.
Pero en la práctica sabemos que tiene unos peligros.
Mais dans la pratique, on sait très bien que ça peut représenter un danger.
Moi, je voulais revenir sur les deux interventions, les deux premières interventions. Tout d'abord, parce que il semble que ce monde sans frontières qui existerait aujourd'hui, il n'existe que pour une tranche de la population mondiale. Il me semble que il est beaucoup plus facile de voir le monde comme sans aucune frontière lorsque on habite au Texas que au Mexique. Donc est-ce que par exemple la compagnie dont vous représentez correspond à cette accepte le fait que le monde dans lequel elle veut s'inscrire ne dépend finalement que d'une tranche minime de la population mondiale.
Oh, c'est pas qu'elle l'accepte, c'est que c'est un fait dont qu'on peut pas nier. Donc la conséquence, enfin, je veux dire, c'est effectivement, il y a une élite. Je sais pas si élite, c'est un peu réduit. Il y a effectivement une partie de la population qui est très bien interconnectée avec les réseaux, l'internet, les appareils qui vont avec, le moyen de s'exprimer. Et il y a toute une partie qui ne l'est pas. Et le but de la société que je représente, c'est de permettre à plus de gens d'accéder à ce niveau de connexion, d'interconnexion et de communication. Parce que c'est évident que c'est dans ces relations personnelles plus faciles, plus rapides, plus multiformes, que chacun peut s'épanouir pleinement.
C'est sûr, je pense que effectivement, les grandes entreprises donnent aujourd'hui une vision peut-être d'un monde sans frontières. Enfin, j'ai en tête une anecdote qui s'était passée, enfin un événement qui s'était passé au moment du tsunami en Thaïlande, où des employés d'une grande entreprise française faisaient partie des victimes du tsunami, et alors qu'ils étaient en vacances, ils n'étaient pas dans le cadre de leur travail. Et malgré ça, donc, l'entreprise en question avait mis des moyens en œuvre pour rapidement aller sur place, ne serait-ce que pour avoir des nouvelles d'eux pour leur famille. Et ils avaient fait ça, en fait, plus rapidement que l'État français, quoi. Ils étaient plus rapidement sur place et ils avaient obtenu des nouvelles de cette personne avant que les autres victimes qui étaient simplement... qui n'étaient pas défendues de la même manière par leur société. Donc là, effectivement, la société industrielle, quoi, enfin, capitalistique, l'entreprise avait pris la place d'un État dans la gestion d'un drame comme ça. Et c'est clair qu'à ce moment-là, l'idéal d'égalité qui peut être défendu par un pays et par la constitution d'un pays, et puisque là, c'est vraiment purement l'appartenance à une société dont le but est de faire des affaires, hein, qui va vous mettre du côté de ceux qui seront sauvés ou qui ne seront pas. Donc... Effectivement, à ce niveau-là, il y a une grande inégalité de traitement des gens qui fait peut-être plus partie du cahier des charges d'une nation que de celui d'une entreprise.
Et si je peux illustrer un autre événement du même type, mais qui, ce coup-ci, n'est pas illustré par l'appartenance à une entreprise, mais par l'appartenance à un réseau social. Il y a les événements qui sont relatés dans le film de Mamoru Hosoda qui s'appelle « Summer Wars », qui décrit en fait comment justement l'appartenance au réseau social Oz, c'est comme Facebook et Second Life en mieux. Vous voyez le film pour comprendre comment ce réseau social fonctionne. Comment l'appartenance à ce réseau social et comment le fait justement de réunir à travers le réseau plusieurs centaines de millions de personnes permet là aussi de lutter contre une catastrophe. Je vous laisse voir le film que je recommande chaudement pour voir la nature de cette catastrophe et la manière dont ça se passe.
Mais quel... C'est toujours le problème de la frontière, bien entendu. Quand on a un concept de frontière, on s'imagine qu'elle peut être passée par certaines personnes, mais en fait, le libéralisme pousse à la destruction des frontières, mais en même temps repose sur le fait qu'il existe encore des États et que certains de ces États ont la capacité de traverser ces frontières pour y faire les affaires qu'ils souhaitent. Et donc c'est ce principe d'égalité qui devait sortir de la nation ou de l'État disparaît l'entreprise, dans le libéralisme, mais au final la frontière est conservée afin de parvenir à avoir des zones cloisonnées pour les riches, tout simplement, et pour ceux qu'on va pouvoir exploiter. N'est-ce pas un peu la définition qui pourrait ressortir du fonctionnement de ce libéralisme ?
En fait, là, je vais parler en mon nom propre et plus au nom de ma société, mais c'est assez clair que pour mon employeur, les États sont une gêne. Une gêne juste parce que les administrations, les États au sens des administrations, des contraintes, tout ça, représentent une entrave à la circulation des idées, à la circulation des technologies et à la liberté du commerce. Donc non, en fait, je suis pas d'accord avec toi. Le cloisonnement, ça ne les intéresse pas du tout. Si on pouvait tout décloisonner, ce serait beaucoup mieux. Les meilleurs services sont des services gratuits et mondiaux, et qui ne dépendent pas du cloisonnement, qui ne dépendent pas des États ni et qui ne sont pas liés par les frontières.
Bien. Para mí hay un tema de fondo en todo esto, que es un tema idéologique,
d'alguna. Là, il y a un sujet de fond pour moi là qui est un sujet idéologique, hein, une question idéologique.
Y es un tema también engañoso, porque puede parecer que una ideología más de izquierdas pueda promover la desaparición de las fronteras, y al contrario, no.
Alors, c'est aussi un sujet trompeur parce qu'on pourrait penser que, par exemple, l'idéologie, enfin, l'aspiration à la disparition des frontières pourrait relever plutôt d'une idéologie de gauche.
En España, por ejemplo, tenemos muchos. Este tema se habla mucho sobre la idea de la desaparición de fronteras dentro de España.
Bon, en España, c'est un sujet qui est très.
Los nacionalismos.
L'actualité.
Catalán, el nacionalismo vasco. El nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco.
El nacionalismo vasco, el nacionalismo catalán.
Aparentemente están envueltos en un aura de ideología de izquierdas.
Apparemment, ça relèverait d'une idéologie de gauche.
Pero en el fondo lo que son es profundamente conservadores.
Mais en fait, ils sont fondamentalement conservateurs.
Este tema de la desaparición de fronteras, aprovechando que está Larry Niven entre el público, creo que se definiría en una novela suya que se llama La paja en el ojo de Dios.
Alors, je pense que ce sujet de cette question de la disparition des frontières, puisque Lars Niven est dans le public, on pourrait dire que c'est quelque chose qui ressort dans son roman
La paja en el ojo de Dios. Hein,
la paja en el ojo de Dios.
La paille
dans l'œil de Dieu.
Sería una cuestión de Eddie el loco. Es decir, define cuestión de Eddie el loco.
Eddie el loco, Eddie le fou, hein, Eddie donc le fou. Ça remet
cuando es una cuestión que todo el mundo piensa que es deseable, pero en la práctica es peor que el resultado final.
Hein, donc en fait, c'est donc quelque chose qui paraît souhaitable, mais qui en fait est bien pire que ce qu'on avait imaginé.
Hay una novela, creo que no sé si la conoceréis, que se llama El cartero, de Addie Breen.
Donc il existe un roman qui s'appelle le postier, le facteur.
Non. Et también hay una película en la que luego interpretó Kevin Costner.
Hein, et donc a été tiré un film interprété par Kevin Costner.
Creo que esta novela de Addie Breen plantea la idea de que los Estados Unidos sucumben en una guerra nuclear. Donc, desaparece el Estado.
Donc ce livre et ce film raconte l'histoire des États-Unis qui ont succombé, qui ont disparu sous les effets d'une guerre nucléaire, hein, en tant qu'État.
La gente es libre de volver a sus orígenes, de vivir de la tierra, de no tener un Estado que le haga pagar impuestos.
Alors les gens sont libres de revenir aux origines, hein, de cultiver leur terre, ils cessent de payer des impôts.
Evidentemente se forman grupos que son como grupos de señores de la guerra.
Et on voit la formation, on assiste à la formation de groupes, hein, qui sont un peu comme des groupes de seigneurs de la guerre.
Que aprovechando que no hay un Estado, se dedican a, à dominer à ces petits groupes de gens indépendants.
Donc ces seigneurs de la guerre hein, qui profitent de la disparition de l'État pour dominer ces petits groupes isolés qui se sont formés.
El protagonista es una persona normal que se esconde en un coche, huyendo de una lluvia ácida, y dentro del coche está el cadáver de un cartero.
Hein, donc le héros, pour se protéger d'une pluie acide, se réfugie dans une voiture, hein, où il trouve le cadavre d'un facteur.
Y él, para protegerse del frío, se pone la chaqueta del cartero, y es una imagen, la chaqueta del cartero con la bandera de los Estados Unidos.
Pour se protéger du froid, il prend l'uniforme donc du facteur. Et évidemment, c'est une image parce que l'uniforme porte sur la manche l'insigne de la poste des États-Unis. Hein, donc l'insigne.
Hacer renacer esa idea de que está volviendo de nuevo el Estado, lo cual es contrario a los señores de la guerra estos.
Et donc, quand on le voit, on se dit que l'autorité de l'État est en train d'être rétablie, puisque lui représente la puissance, l'insigne représente la
puissance. Es decir, que la desaparición de las fronteras muchas veces nos puede parecer una utopía, a mí me parece una utopía deseable.
Donc, même si la disparition des frontières me paraît une utopie souhaitable,
pero solo sería posible en un mundo mucho más avanzado moralmente que el nuestro, creo.
Mais ce serait possible seulement dans un monde moralement beaucoup plus avancé que le nôtre.
Il me semble que c'est exactement la voie de l'utopie. Ce n'est pas possible actuellement, mais c'est par l'évolution morale que la destruction des structures comme la structure de la frontière peuvent se faire. Quand elles deviennent superflues, elles disparaissent. Et moi, je pensais aussi à une toute autre vision du monde sans frontières, celui de l'âge de diamant de Neil Stephenson, où les frontières terrestres n'ont plus aucune importance, puisque le déplacement est très facile, l'appartenance sociale peut se faire. On peut être d'une culture sociale, qu'on soit né à tel endroit de la planète ou à l'opposé, on peut faire partie du même groupe par le réseau social. Et alors là, le monde sans frontières, en fait, et devient effectivement dangereux, puisque la culture de la différence, de voire même de la xénophobie entre une classe et une autre, ou entre une culture et une autre, même s'il n'y a plus le concept de pays, de nation qui pourrait provoquer cela, et ben on parvient toujours à un concept dangereux de monde, malgré le fait qu'il n'y ait plus aucune frontière.
Sí, sí, bueno, tienes la serie de Star Trek, por ejemplo, que presenta un universo sin fronteras donde todo el mundo es moralmente más elevado.
Bon, on a l'exemple de Star Trek hein, qui nous montre un monde sans frontières moralement plus élevé.
Pero imaginemos que no existen las fronteras de Francia con un pays musulman, par exemple.
Bon, imaginons que, par exemple, il n'y ait plus de frontières entre la France et les pays musulmans.
Y que un pequeño grupo de musulmanes instalados en Francia.
Et qu'un petit groupe de musulmans installés en France.
Régidos por sus propias normas, sin una autoridad superior.
Hein, régis par leurs propres normes, sans aucune autorité supérieure.
Deciden castigar una mujer con lapidación por haber cometido.
Décident de châtier une femme en la lapidant.
Se puede consentir eso en un territorio europeo.
Esto, donc on pourrait assister à ça dans un pays européen.
C'est une question.
C'est une question.
La question dans ce genre de cas, c'est que ferait le capitaine Kirk?
Hein, dans la question.
Oui, je veux dire, c'est Star Trek, c'est une utopie. Je veux dire, là, c'est comme tu viens de le dire.
Sí, es una utopía, pero es una utopía deseable. Yo también tengo esa utopía.
Es una utopía souhaitable que je partage.
Je conçois, mais elle n'est pas évidente à projeter sur notre monde. Et pour revenir à ce que tu disais sur la poste, le symbole de la poste comme symbole de quelque chose, d'une valeur d'une valeur publique, d'une valeur morale, enfin, quelque chose qui unit un peuple. Ce que je trouve intéressant, c'est que quelque part, ça l'est encore, puisque les postes des pays que je connais, alors, en l'occurrence la France et la Suisse, sont deux institutions qui ont un crédit extrêmement fort auprès des gens, parce que tout le monde les connaît, parce que ce sont des institutions qui inspirent la confiance. Et dans les deux cas, on sait bien que c'est quelque chose, en réalité c'est plus qu'une image, c'est-à-dire que les choses sont en train de changer derrière, même s'il y a des gens qui défendent ces valeurs dans les institutions, il y a aussi des gens qui aimeraient bien que ça devienne des institutions rentables, que ça devienne on sépare un peu les activités à revenus des activités par revenus, enfin j'imagine que la situation en Espagne doit être similaire.
Sí, bueno, creo que estamos hablando de lo mismo. Quiero decir que para mí esa también es una utopía. Además, yo tengo la cultura mediterránea como muy imbuida.
Bon, je crois qu'on parle un peu de la même chose. Pour moi, c'est vrai que j'ai une culture méditerranéenne.
El Mediterráneo ha sido. Yo soy de Valencia y en Valencia tenemos influencia de griegos, de phéniciens, de romanos, de arabes.
Hein, donc bon, moi je suis de Valence, de la région de Valence, et c'est vrai que c'est une région qui a subi l'influence des grecs, des phéniciens, des romains,
des musulmans.
Estamos
orgullosos de toda esa influencia.
Nous sommes très orgueilleux, très fiers de ces influences.
Y creo en un diálogo con todos los tipos de cultura para llegar a ese punto. Lo único que digo es que aún está muy lejos en estos momentos.
Donc moi je crois au dialogue de toutes ces cultures qui nous permettrait d'arriver au point qu'on souhaitait, mais je crois qu'on en est très loin encore.
Por ejemplo, volviendo a la paja en el ojo de Dios de Lars Nivel.
Pour revenir à la paille dans l'œil de Dieu de Lars Nivel.
Los problemas que tienen en su sociedad son las guerras. Cada cierto tiempo hay una superpoblación y todo el mundo se extermina en una guerra.
Bon, l'aspect le plus important, hein, c'est que régulièrement il y a des guerres qui sont dues à la surpopulation.
Y hay una gran mortalidad. La solución para ellos es tienen una raza que son los guerreros, es eliminar a los guerreros.
Hein? Et la solution passe par bon, il existe une race, c'est la race des guerriers, et la solution passe par l'élimination de cette race des guerriers.
Por lo tanto, si no hay guerreros, va a haber paz. La respuesta tipo Eddie el loco es que algunos guardan en secreto a guerreros para apoderarse del mundo cuando los otros han matado a los suyos. Hay unos pequeños grupos que guardan a sus propios guerreros en secreto.
Certains petits groupes gardent cachés leurs propres guerriers.
El problema está que los humanos o los pajeños en ese caso no nos podemos fiar unos de otros en estos momentos. Algún día quizás sí, pero en estos momentos no estamos al mismo nivel todos de credibilidad o de conciencia.
C'est que les êtres humains n'ont pas tous le même niveau de crédibilité, la confiance n'est pas toujours possible entre les uns et les autres parce qu'on n'a pas on n'a pas la même vision de ce concept, hein, le concept de la confiance.
Moi, ce que m'évoque ces questions-là, c'est un peu ce qui me fait penser simplement le nom du salon, les utopiales et l'utopie, et peut-être un point sur lequel la science-fiction, ou au moins une certaine science-fiction, à la limite complique le problème au lieu d'essayer de le résoudre en proposant justement une utopie tellement lointaine et tellement où on a résolu les problèmes par des situations tellement éloignées de nous, où les gens moralement ou intellectuellement se comportent pas du tout comme se comportent les populations humaines, en fait éloigne le problème, puisque le rêve qu'on a concernant un monde sans frontières, c'est simplement de pouvoir aller voir ses voisins, aller discuter avec ses voisins sans devoir avoir un passeport ou une autorisation de le faire. Et que les problèmes très concrets qui se posent, et moi, dans mon expérience personnelle de vie au Japon, c'est ce que je vois, ce que j'ai vu, c'est déjà simplement un problème de langue, et que tout ça, ça passe plutôt par les efforts d'éducation, qui effectivement, du coup, mettent les différents États sur un pied inégal, puisque ça demande donc des efforts de la part des gouvernements pour apprendre simplement l'anglais, par exemple, à tous les enfants, et que justement, passer par l'utopie pour essayer de proposer une solution à ces problèmes-là, en fait, nous éloigne de la réponse et nous plonge dans un monde qui de toute façon est tellement éloigné du nôtre. En fait, ce qui compte, c'est le chemin qui va nous mener jusque-là et surtout les premières marches qu'on va franchir, qui peut être aussi, alors qui font pas rêver, qui permettent pas d'écrire un livre de science-fiction, mais enfin c'est simplement d'apprendre l'anglais. Je discutais il y a pas longtemps dans un salon qui ressemblait à ça. J'ai pas pu m'empêcher, c'était mon côté peut-être un peu provoque. Il y avait un stand de gens qui faisaient de l'espéranto. J'ai pas pu m'empêcher d'aller les voir en me disant apprenez l'anglais. Voilà l'espéranto, tout le monde parle cette langue-là et on peut ne pas être d'accord. On peut parler français et parler anglais en plus. On n'a pas à choisir une langue, on peut en parler plein et apprendre le japonais. Et que effectivement, ça me semblait un peu étrange. L'espéranto, c'est pour moi un peu un des symboles de une utopie qui éloigne de la solution plutôt que de nous rapprocher de la solution du problème.
Mais l'espéranto était plutôt un moyen vers l'utopie que l'utopie elle-même, je pense.
L'espéranto défend une utopie. C'est un langage profondément idéologique. Qui défend une vision du monde. C'est pas seulement un langage. Derrière le langage, derrière la conception du langage, il y a un rêve. En fait, il y a justement le rêve dont tu parles. Et c'est un rêve qui date d'avant le moment où l'anglais devient le globish, c'est-à-dire l'anglais général qui ressemble pas vraiment à l'anglais mais que moi je parle, devient la langue de communication mondiale. Mais je pense que y a plusieurs solutions. Il y a l'apprentissage des langues comme tu dis, mais il y en a une autre par exemple qui là devient une solution de science-fiction, mais curieusement, mais pas obligatoirement une solution de science-fiction si éloignée, dans Oz, le réseau social dont je parlais tout à l'heure, que certains pourraient penser réel et d'autres relever d'une science-fiction relativement proche. Le problème de la communication est résolu à travers la technologie. Toutes les traductions fonctionnent en automatique.
Ah, pour ça, oui, d'accord. Parce que c'est vrai qu'aussi, dans un monde sans frontières, on pense souvent à Internet, on va se dire, effectivement, c'est une espèce de monde sans frontières et on peut discuter, jouer, raconter ses états d'âme à quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde, mais c'est quand même un faux monde, puisqu'on ne rencontre pas les gens, on n'est pas avec eux, on ne discute pas avec eux autour d'une table. Et il manque toujours quelque chose dans le contact humain et le vrai monde sans frontières dont on peut rêver implique de se déplacer et d'y aller. Et effectivement, on va poser tous les problèmes après d'accès aux moyens de transport, d'accès à l'éducation pour apprendre d'autres langues et toutes ces choses. Et simplement d'accès aux machines qui permettent de se connecter à Internet.
Ah, c'est des justement, c'est là-dessus que la généralisation de la technologie peut apporter une solution. Je veux dire, moi, je travaille dans une multinationale avec des gens du Vietnam. On n'a aucune langue commune. Alors, là où je défends tout ce que tu dis, c'est qu'on se rencontre. C'est que régulièrement, des gens de ma société vont au Vietnam rencontrer les gens avec qui on travaille et les Vietnamiens avec qui on travaille viennent nous voir en Suisse, là où on est, pour avoir une connaissance, un contact humain et un contact des personnes qu'on connaît. Mais ça, c'est une ou deux fois par an. La plupart du temps, on est par mail et par application technique interposée. Et quand il s'avère que par malheur, on se trompe et qu'on leur envoie des documents de définition de tâches ou je ne sais quoi en français, eux, ils le mettent dans la moulinette Google et ils traduisent en vietnamien. Et en fait, ça marche.
Yo también quiero romper una lanza por el esperanto, por la idea del esperanto, porque cuando era pequeño,
je voudrais revenir à l'espéranto. Quand j'étais petit,
estaba muy de moda lo del esperanto.
C'était quelque chose, c'était un sujet très à la mode.
Y lo que se estudiaba en las escuelas en España era francés, no inglés.
Et à l'époque, on étudiait le français à l'école et pas l'anglais.
Et l'inglés se fue imponiendo poco después. Yo fui la última generación que estudiamos francés, después de mí todos estudiaron inglés.
Donc l'anglais ça a commencé à s'imposer peu après, et je fais partie de la dernière génération qui a étudié le français et non l'anglais.
Y nadie nos puede asegurar que dentro de unos años será el chino la lengua que se tendrá que hablar a todo el mundo.
Bon, je peux vous assurer que dans quelques temps, ce sera le chinois qui supplantera l'anglais.
Yo por lo menos he visto en mi vida cómo ha pasado la lengua franca, de ser el francés, la lengua donde la gente se comunicaba, al inglés. Puede cambiar otra vez.
Dans ma vie, j'ai pu assister au passage d'une langue à une autre, d'une langue, la langue véhiculaire, la langue de communication internationale, comment elle a changé, et qu'on est passé du français à l'anglais.
Pero sí que creo que la tecnología tiene la respuesta. Y es posible que hay un pues, esto es muy interesante porque creo que define un poco lo que es la frontera mental y las fronteras reales.
Donc je crois que effectivement hein, la technologie peut apporter la solution.
Si me permitís que cuente una pequeña anécdota,
je vais vous raconter une anecdote hein, sur
hay un concurso en España en Cataluña, la Universidad Politécnica de Cataluña, que se llama el UPC. Puede participar en francés, lo digo por si algún escritor francés quiere participar, son novela corta, se puede participar en francés.
Donc il existe un concours à l'université de Polytechnique de Catalogne, un concours auquel on peut participer en français, donc les auteurs francophones pourraient être intéressés.
Son 6000 euros de
Et le prix est de 6000 euros.
Una novela corta.
C'est sur des nouvelles, hein, c'est
Bien, un año ganó, no ganó, quedó finalista una novela de un catalán.
Donc le finaliste, celui qui a gagné, c'était donc une nouvelle catalane.
Que se llamaba Quim Vol Pangloss.
Quim Vol, intitulé Quim Vol Pangloss.
En catalán es ¿Quién quiere el Pangloss?
Traduit en français, qui veut Pangloss.
¿Quién quiere el Pangloss? El Pangloss es un aparato, un invento pues, como los que están usando ahora aquí, donde tú te lo colocas y tú hablas en cualquier lengua y la persona que tienes enfrente te escucha en su propia lengua.
Donc c'est un appareil qui permet de parler dans sa propre langue et la personne qui est en face de vous vous comprend dans sa langue à elle.
Il me semble que dans le guide du routard galactique, ça s'appelle le poisson Babel. De Douglas Adams.
Sí, muy bien. El que lo inventa es un catalanista, es un nacionalista catalán.
Donc celui qui a inventé cet appareil est un nationaliste catalan.
Él puede hablar en catalán y la persona que lo escucha con el Pangloss lo oye en castellano.
Donc on peut parler en catalan et la personne qui est en face de vous vous comprend en espagnol.
Y esta persona después de haberlo inventado decide destruirlo.
Et après l'avoir inventé, son inventeur veut le détruire.
Porque piensa que el mundo no, que él quiere que el otro tenga dificultades para entenderle.
Parce qu'en fait, il se rend compte qu'il veut que les autres aient des difficultés pour le comprendre. En fait, qu'il ne soit pas si facile à comprendre. Il se rend compte que.
La idea es que muchas veces las fronteras son intereses particulares y creados por los nacionalismos.
Très souvent, les frontières donc représentent des intérêts créés par les nationalismes.
En Cataluña, podemos ver cómo se está usando la lengua como una barrera ante el resto de España.
En Catalogne, on voit bien comment la langue hein, sert comme est instituée comme barrière hein, par rapport vis-à-vis du reste de l'Espagne.
En vez de derribar fronteras, están construyendo fronteras nuevas.
Donc au lieu de renverser les frontières, de les faire disparaître, on en construit de nouvelles.
En fait, moi, je pense que ces distinctions de langue qui apparaissent entre les peuples faut pas avoir la volonté d'un État ou une barrière ou quoi que ce soit. En fait, si je pense que si à cet instant, par magie, le monde entier parle espéranto, vous laissez passer 6 mois, il y aura un espéranto français, un espéranto chinois, et les gens vont s'approprier la langue, et parce que les gens ont des cultures différentes et des problèmes différents qui font qu'ils vont s'inventer les mots dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne, qui est pas les mêmes que les mots dont on a besoin à l'autre bout du monde. Et un peu la même chose pour l'utopie d'un appareil magique qui traduirait les langues automatiquement. On sait bien quand on apprend les langues qu'il existe dans toutes les langues des tonnes de mots qui sont pas faciles à traduire parce qu'ils n'ont pas exactement le même sens, parce qu'en fait c'est des mots qui sont chargés d'une culture et ils désignent pas un objet, et comme la culture des pays est différente, et ça on n'y peut rien à moins de vouloir vraiment faire un empire militaire où chacun serait exactement sur le même moule. Forcément les mots seront différents et je trouve plus riche justement de passer par l'éducation plutôt que par la technologie pour inciter les gens à apprendre plusieurs langues. On n'est pas obligé d'en apprendre une seule. Pourquoi l'espéranto, pourquoi même pas l'anglais, on en apprend plusieurs, c'est pas si compliqué que ça, et justement en faisant ça on se rapproche des autres et on a déjà un peu effacé la frontière.
Je lève une ambiguïté sur l'espéranto n'est pas fait pour être une langue qui remplacerait les autres, c'est fait pour être une langue en plus des autres. Et ce que tu dis, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a des espéranto locaux, les espérantistes y sont totalement confrontés, mais comme c'est une langue administrée, quand un besoin de vocabulaire apparaît spécifiquement pour échanger auprès de nouveaux concepts, eh bien, il y a au bout d'un moment, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a une décision, il y a un mot qui est choisi pour le faire. Mais ce n'est pas du tout une langue de remplacement.
Mais on retombe dans le dictionnaire de l'Académie française, quoi, qui a 10 ans de retard sur la vraie vie, et c'est pas l'idée de centraliser une langue et que ce soit un groupe de personnes qui décident.
Ça ne peut marcher que pour une langue artificielle, ouais. Comme l'espéranto. Pas pour une langue qui est une langue de culture, pas pour une langue de culture.
Mais
bien sûr. Et même pas si loin que ça, la Belgique, la Suisse.
Oui, mais là, ce sont les autres qui se trompent.
Sí, bueno, en el portugués, por ejemplo, no existe una academia de la lengua portuguesa.
Il n'existe pas d'académie de la langue portugaise.
De modo que en Brasil se usa una ortografía totalmente distinta a Portugal.
De sorte qu'au Brésil, on utilise une orthographe assez différente de celle qui est en vigueur au Portugal.
Es decir, un libro editado en Portugal no lo pueden leer en Brasil.
C'est-à-dire qu'un livre publié au Portugal, on le lira difficilement au Brésil.
Sí, de hecho sí lo pueden leer, pero con muchas faltas de ortografía, ortografías distintas.
Oui, en fait, on peut le lire, mais simplement le lecteur brésilien trouvera qu'il est truffé de fautes d'orthographe.
D'accord. Moi, je vais essayer de revenir un peu à l'utopie en elle-même et à la différence entre le moyen pour atteindre l'utopie et puis lancer l'utopie comme ça. Je pense, c'est un peu l'objet sur lequel je travaille, que l'utopie est la société par définition, et donc sans l'homme. Et c'est ce que c'est là où je vais rejoindre Monsieur Aguilera, c'est que là où l'homme est, l'utopie n'advient pas de fait. Il y a toujours des passions, des problèmes de culture, d'incompréhension qui se créent. Et donc l'utopie serait donc non pas ce qu'on cherche à atteindre, mais ce que l'on corrompt dans notre existence. C'est par définition la société. C'est la rationalisation entière des rapports entre personnes, entre administration et personnes, et entre groupes et autres groupes. Il me semble que c'est ça l'utopie. Et donc c'est pas tellement quelque chose de décourageant. Il faut juste ne pas penser que c'est ce vers quoi on tend, mais plutôt ce que l'on a radicalement corrompu de façon principielle, et donc ce que l'on peut retrouver en essayant de se décharger, en faisant de la déconstruction en fait de structure. Et je pense que ça peut être un principe d'espérance, comme disait Blore, que l'utopie soit ça. Je pense que c'est possible.
Non, si, c'est d'accord.
S'il y a quelques questions dans l'Assemblée, on va pouvoir en prendre quelques-unes. Personne. Est-ce qu'on a un micro sans fil? Ah, super.
Ça serait une question pour le monsieur qui vient d'Espagne. Comment vous pouvez concilier un régionalisme et une volonté de s'intégrer dans l'Union européenne?
Justement, il le convoque.
Monsieur Aguilera.
Sí, desde mi punto de vista, por lo mismo que comentaba antes, creo que la Comunidad Europea representa un espacio en el que nos hemos dado unas leyes
y unas normas éticas en las que estamos de acuerdo todos.
Donc je pense que pour les mêmes raisons que celles que nous évoquions tout à l'heure, l'Union européenne est un espace dans laquelle au sein duquel nous nous sommes donné des normes, des lois, hein, une éthique sur laquelle sur lesquelles nous sommes tous d'accord.
Para mí esa es la única frontera realmente que ahora mismo me interesa, no es una frontera por divisiones históricas.
Donc la frontière, là, c'est la seule frontière qui m'intéresse. Là, ce ne sont pas les frontières qui existent pour des raisons historiques.
Je crois que l'histoire est là et
bon, l'histoire est passée.
Et quelqu'un peut recourir à l'histoire pour justifier quelque chose.
N'importe qui pourrait utiliser l'histoire pour justifier n'importe quoi.
La question est que je crois que les Européens, tous les Européens, nous avons à unos valores muy parecidos y unos intereses y una moral. Une éthique muy similar.
Donc le fait est qu'aujourd'hui les Européens nous avons des valeurs, une éthique très des valeurs, une éthique très similaire, et que c'est ça qui nous intéresse.
El regionalismo se apoya en hechos históricos que hoy en día no tienen ningún interés ni ninguna importancia.
Le nationalisme s'appuie sur des faits historiques, qui aujourd'hui ne revêtent plus aucune importance.
Est-ce qu'il y aurait une autre question? Je pense qu'il pourrait. On aurait le temps juste pour une dernière, s'il y en a une. Non. Eh bien, je vais vous remercier d'avoir assisté à cette conférence et merci à vous d'y avoir participé.